Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes.
Au menu aujourd'hui, la 100e de Previously. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Alors on va commencer par la fin. Généralement, c'est en fin de générique qu'on peut lire ou entendre les remerciements. Moi, pour ce 100e podcast de Previously, je vais commencer par cela. Car si cette émission existe, c'est grâce à Thierry et à Fabrice. Si elle continue, c'est grâce à Julien et à Marine. Et si elle se fabrique, c'est grâce à Mélissa, Paul-Henri et toutes celles et ceux, comme Isabelle et Solène, qui travaillent à leur côté. Avec une mention spéciale à Mégane, Étienne et surtout César, qui se charge du montage et dont vous entendez la voix quelquefois lors de traduction. D'ailleurs, vous allez l'entendre un petit peu plus tard. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont accepté de partager leur expertise sur une série que je connaissais moins bien qu'eux, ou de témoigner sur la production où ils ont travaillé. Et puis, je voulais vous remercier, vous. Parce que c'est quand même grâce à vous que l'on arrive à 100 émissions. Vous qui écoutez, suivez, téléchargez et appréciez cette plongée dans les séries, certaines qui vous plaisent, d'autres que vous êtes curieux de découvrir. De X-Files à Desperate Housewives, en passant par Lost, Urgence, Les Experts et NCIS. De Dynasty à Dallas, en passant par K2000 et Columbo. De Zorro à la Twilight Zone, en passant par Star Trek. De Game of Thrones à Plus belle la vie, de The Walking Dead au Mentalist, de 24 heures chrono à Dexter. J'ai toujours voulu aborder des séries aux qualités indiscutables, à l'impact majeur, au succès confirmé. Alors, pour ce 100e Previously, eh ben on va parler des bides. Les bides, les catastrophes, les échecs intersidéraux, presque les plaisirs coupables. Mais là, il faut être un peu comme moi, très très masochiste pour les suivre. On va parler de séries que je n'oserais jamais aborder, et encore moins vous recommander. Non pas celles que je n'aime pas, moi, ou que vous n'aimez pas, vous, parce que ça c'est très subjectif, hein, mais des séries qui ont été annoncées avec roulement de tambour, budget promotionnel conséquent, annonces ronflantes et gros talents associés, et qui se sont avérés être des catastrophes artistiques, des cauchemars à visionner, des séries ratées, mais de splendides ratages, spectaculaires et définitifs. Mais comme souvent, les échecs sont des histoires quelquefois plus intéressantes que les réussites. Alors, pour tout vous dire, il y a le choix. J'ai dû faire une sélection sur la base de critères extrêmement clairs et intransigeants. Vous allez d'ailleurs assez vite comprendre qu'il y a deux spécificités communes à toutes ces cata-séries, comme je les appelle. Prenez des notes, je vous révèle tout ça à la fin. Des séries qui ne marchent pas, qui sont mauvaises ou qui ne trouvent pas leur public, il y en a beaucoup. C'est même la majorité des cas, chaque nouvelle saison, avec une bonne partie de la grille qui passe à la trappe. Il en est de même pour les plateformes, qui souvent ne laissent que deux saisons à leur création originale pour exister. Tel le Marco Polo de la Weinstein Company, qui coûta 90 millions de dollars à Netflix et ne parvint à convaincre personne. Moi, je parle plus des séries très attendues, comme cette nouvelle version de Drôle de Dame, en 2011, par les créateurs de Smallville, Alfred Goog et Mike Millar. Elle était en couverture de TV Guide et elle est annulée en catastrophe après 4 épisodes, 8 en boîte et 7 de diffusée. Encore la nouvelle création de David Kelley, qui en 2002 était le roi du monde avec Ally McBeal et The Practice, souvenez-vous. Eh ben, c'est vous dire si Girls Club était attendu. Non seulement cette série sur trois jeunes filles avocates est retirée de l'antenne après deux épisodes, mais elle est aussi retirée du cours. Elle disparaît du catalogue et de toutes ses préventes à l'étranger qui ont été rétractées. Ça, c'est de la série cata. Plus cata encore, le soap-opéra quotidien produit à grands frais par TF1 en 1991 est censé remplacer Santa Barbara dans le cœur des spectateurs. Ça s'appelait Riviera. C'est avec Xavier Deluc et Jeanne Manson qui étaient à la tête de ce projet prestigieux et international, lancé à 18h et qui passa très rapidement à 6h du matin pour épuiser la majorité des 260 épisodes commandés. La cata industrielle. Ah ouais, le générique, ça vous dit quelque chose. Hein. Vous avez compris, je ne vais pas vous parler de mauvaises séries, mais de séries qui ont été des catastrophes. Des catastrophes spectaculaires comme Manimal. Eh ouais, Manimal. Jonathan Chase, en costume de papillon, qui utilise le secret de la métamorphose pour se transformer en animal. N'importe quel animal. Par chance, une fois redevenu humain, il récupère ses vêtements, tels qu'ils étaient. Hein. Il est secondé par Ty Earle et par la détective Brooke McKenzie, interprétée par Melody Anderson, déjà vue dans le kitschissime Flash Gordon de Dino De Laurentiis. Jonathan Chase, c'est Simon McCorkindale, qui ensuite fut l'avocat Greg Reardon dans Falcon Crest, puis qui refusa de jouer le capitaine Jonathan Archer dans la nouvelle série Star Trek, Enterprise. Il préféra retourner en Grande-Bretagne, son pays d'origine, pour tenir un rôle 6 années durant dans la série médicale Casualty. La série Manimal est créée et produite par un vieux roublard de la télévision, Glenn Larson. Je vous avais parlé de lui dans le Previously consacré à K2000. Larson a conçu bon nombre de séries très populaires, mais on a souvent laissé l'exécution à d'autres producteurs comme Harvey Bennett, Donald Belisario ou Kenneth Johnson, qui modifiaient considérablement son concept pour en faire quelque chose d'un peu plus original que prévu. Par manque de chance, aucun d'entre eux ne travailla sur Manimal, qui devint immédiatement la fausse bonne idée à mettre en série. Glenn Larson me l'a évoqué. C'était en 1996 au MIP TV, alors qu'il y proposait sa nouvelle production.
Ça a peut-être été fait à une mauvaise époque. Maintenant, avec les effets du morphing, on n'aurait pas à lui faire subir 4 heures de maquillage. C'est une série qui aurait bien pu marcher, et en fait, j'ai cru comprendre que des Français voulaient en faire un remake en 95-94. C'est une série qu'on pourrait lancer au MIP pour voir combien de pays voudraient l'acheter. Malheureusement, il a démarré le soir où a été diffusé l'épisode de Dallas où on vous révèle qui a tiré sur JR. Le fait que personne ne l'a regardé n'est donc pas de ma faute à moi. Moi aussi, je voulais savoir qui a tiré sur JR. Ça n'a donc pas démarré sur de bonnes bases. Et ça a été le sujet de blague pour Brandon Tartikoff à chacune de ses conférences de presse. Il parlait de la série dans son introduction. Manimal ceci, Manimal cela, ça revient à se moquer d'un de ses propres enfants. J'aurais préféré qu'il ne s'en moque pas, car je pense qu'il y avait plus à faire avec cette série.
Alors, Glenn, bon, tu n'es plus parmi nous, donc je peux le dire, hein. Pipo. Si Manimal a bien été programmé par NBC le vendredi soir à 21h, c'était face à Dallas sur CBS, ça c'est vrai, c'était quand même à la rentrée 1983. Dallas en était à sa 7e saison. L'épisode qui était diffusé le soir du lancement de Manimal, c'était celui où le ranch de South Fork était en feu. Parce que le fameux épisode qui a tué JR, bah, c'était en saison 4, en novembre 1980. 3 années plus tôt. Si le directeur des programmes de NBC se moquait de Manimal, c'était pour faire de l'autocritique sur sa propre décision d'avoir validé une série aussi bancale. Car, malgré les formidables séquences de transformation créées par le maître en effets spéciaux Stan Winston, le reste de la série était sans relief. Les personnages sans réelle personnalité, les histoires de banales intrigues policières déjà vues 1000 fois. Et le héros se transformait systématiquement en faucon ou en panthère noire. Pas étonnant qu'après 5 épisodes et une chute au fin fond des audiences, la série était stoppée. Et ses 3 épisodes déjà tournés au moment de l'annulation, carbonisés durant le mois de décembre, le samedi soir, face à la croisière s'amuse. Dans le récapitulatif général de la saison, Manimal arrive en 81e position sur 101 programmes, avec 17% de part de marché. Bon, à titre de comparaison, K2000, juste devant Hill Street Blues, arrive à la 29e place avec 25% de part de marché. La popularité de la série en France, où elle a été diffusée sur France 3, M6, TF1 et La 5, est inexplicable. Quelques mois après cette interview, qui lui a donc peut-être donné des idées, Glenn Larson ressuscitait son personnage dans la série qu'il produisait à l'époque, Nightman, adaptant un super-héros créé par Steven Englehart pour Malibu Comics, avec Simon McCorkindale qui reprenait son rôle de Manimal et les transformations qui étaient maintenant en images de synthèse. Pour un seul épisode, hein. Mais cette fois-ci, Manimal évoluait dans un environnement typiquement de science-fiction et Nightman et lui devaient traquer Jacques l'Éventreur qui voyageait dans le temps. Voilà. Donc oui, Glenn, bien exécuté, ta série ne se serait peut-être pas crachée lamentablement. Mais si tu m'entends de là où tu as une mince compensation si je te dis que tu n'es pas le seul. Non, tu n'es pas, et de loin, le seul méga-producteur à te vautrer avec une série ambitieuse. Manimal avait beau être une série très coûteuse, elle ne l'était pas autant que celle qui va suivre. Notre prochaine série catastrophe ne se déroule ni sur Terre, ni dans l'espace, mais sous les mers. En 1993, une époque où la nouvelle génération de Star Trek a donné naissance à Deep Space Nine et à Babylon 5. Les séries sur l'exploration spatiale sont donc devenues monnaie courante. Alors pourquoi ne pas transposer le concept dans une série futuriste, mais qui se passerait non plus dans l'espace, mais sous les mers ? Telle est l'idée de SeaQuest DSV, la série vedette de la rentrée. Production de prospective scientifique, et pas de science-fiction, attention, hein, prospective scientifique. Elle se déroule dans un futur proche, en 2018, 25 ans dans l'avenir, et avec un très net message écologique. La nécessité d'explorer et de peupler les océans, de les découvrir, mais aussi de les surveiller. De l'aventure, basée sur une réalité scientifique, cautionnée par le fameux océanologue Bob Ballard, celui qui a découvert l'épave du Titanic en 1985, et qui conclura d'ailleurs chaque épisode pour mettre en perspective certains éléments. Dans le monde de SeaQuest, la technologie permet de vivre dans les océans pour faire face à la surpopulation. Des fermes et des exploitations sous-marines fonctionnent, des colonies sont donc créées, mais un gigantesque sous-marin est là pour faire régner la loi et l'ordre. Avec, en tant que membre de l'équipage, John Diaquino, John Franklin, Ted Remy, ouais, le frère de l'autre et futur vedette de Xena, princesse guerrière, Marco Sanchez, Royce D. Applegate, Stacy Hyduk, Stephanie Beecham, qui était auparavant une des garces des Colbys, la série dérivée de Dynasty, et qui est ici la scientifique de service, la docteure Wes Palen, Jonathan Brandis, dans le rôle de Luca, le jeune geek très irritant, un peu comme Wesley dans Star Trek La Nouvelle Génération, et surtout, la vedette de la série dans le rôle de Nathan Bridger, l'inventeur de ce sous-marin révolutionnaire qui est SeaQuest DSV, Roy Scheider, l'acteur des Dents de la Mer de 2010, de Que le spectacle commence. Bref, l'acteur qui n'avait fait que des guests ou des téléfilms unitaires jusqu'à présent. Pour lui, le capitaine Bridger est un croisement entre Jean-Yves Cousteau pour l'exploration scientifique et Popeye pour son excentricité. Et comment parvient-on à convaincre ce prestigieux acteur de devenir le capitaine Kirk d'une nouvelle série télé ? Eh bien, c'est simple. Il suffit de s'appeler Steven Spielberg. Ben ouais, ça aide. Spielberg, qui venait de finir Jurassic Park, est en effet le producteur exécutif de la série. Il obtient de NBC la commande d'une saison entière de 21 épisodes et un budget que l'on estime à l'époque à 1 200 000 dollars l'heure. Donc, c'est proprement faramineux. Et le tout sans tourner le moindre pilote. Parce que les moyens techniques déployés pour créer ce sous-marin, les décors, les effets spéciaux, ne pourront être amortis que sur une saison et pas sur un unique pilote qui pourrait être retoqué. NBC, pour rentabiliser un tel budget, programme Sequest DSV le dimanche soir, la soirée la plus regardée de la semaine. Donc ce Sequest Police des Mers, comme on l'appellera en France, est bien la série la plus scrutée de cette rentrée. Sauf que, comme TV Guide le note dans son numéro de rentrée qui présente l'ambitieuse série, le succès de Star Trek, que la série prend pour modèle, ne repose pas sur ses décors, mais sur ses histoires et ses personnages. Une leçon que la série devra apprendre très vite si elle ne veut pas couler comme une pierre, y écrit-on. Mais on n'en a que faire, puisque la série n'est pas de la science-fiction, n'arrêtons pas d'asséner. Même le dauphin qui parle, Darwin, est scientifiquement probable. Ouais, parce qu'il y a un dauphin qui parle. Vous sentez venir, la cata ? Le premier épisode, qui fait 1h30, est mis en scène par Evan Kishner, le réalisateur de l'Empire Contre-Attaque. Et c'est un carton. Mais très vite, tout dérape. Rock Newbanon, le créateur de la série, précédemment story editor, ça veut dire superviseur des scénarios, sur la très réussie cinquième dimension, la Twilight Zone, et qui sera d'ailleurs ensuite à la direction de séries comme Farscape, du remake de V, de Défiance, de Révolution, il est actuellement d'ailleurs sur la très réussie série Evil, Rock Newbanon donc quitte la série. Pourtant, c'est lui qui l'a créée. Darwin, par exemple, c'était son idée. Le dauphin, muni d'un appareil traducteur, devait être le Monsieur Spock de la série. Sauf que ben, les responsables actuels le font parler comme un petit enfant. « Darwin veut papa !» Enfin, vous voyez, avec une petite voix un peu ridicule. Son remplaçant, c'est Tommy Thompson, le producteur de Code Quantum. Immédiatement, il entre en conflit avec la star de la série, Roy Scheider. Tout simplement parce qu'il propose une histoire où l'équipage se croit seul survivant d'un holocauste nucléaire. Et donc, il va devoir quitter son poste face au refus de Scheider et de Spielberg. Troisième showrunner en quelques épisodes, David Burke, bien connu pour avoir présidé à la destinée de ce chef-d'œuvre qu'est un flic de la mafia. Sequest, il lance, en accord avec le concept initialement pitché de la série, des histoires historiques et réalistes, comme la découverte de la fameuse librairie d'Alexandrie au fond des mers. Cette orientation convient très bien au docteur Robert Ballard, la caution scientifique de la série, qui, Burke le dira des années plus tard, a vraiment beaucoup, mais beaucoup, beaucoup trop d'influence sur les scripts, elle pêche par un manque total d'enjeux dramatiques. Le Sequest part au secours d'astronautes dont la capsule s'est écrasée en mer, des terroristes envahissent le Sequest, le grand Charlton Heston et William Shatner font des guests, mais rien ne passe. En clair, c'est d'un ennui aussi profond que les eaux où navigue le Sequest. En fait, on croirait presque se trouver devant une version scénarisée des voyages de l'équipé Cousteau. Donc, un documentaire, sauf que là, au niveau du spectacle, le Sequest, bon, quand même, c'est bien mieux que les Calypso, hein. Enfin, bon, on va dire ça. Parce que, en fait, le Sequest, on n'arrive même pas à le distinguer. On le voit pas. En partie parce que, comme justification, on nous dit que, ben oui, sous la mer, tout paraît très sombre. Hein? Voilà. Bon, la vraie raison, c'est que les effets visuels sont très très faibles. On est au début de la révolution des CGI, des effets par ordinateur. Il faudrait des mois et un budget beaucoup plus important pour tout faire. Les responsables des effets spéciaux ne parviennent même pas à reproduire la surface des océans de façon réaliste. Donc, ben, le Sequest, on distingue un peu d'ombre et puis voilà, quoi. Alors, on s'ennuie ferme dans une série qui a quand même un budget de 1 200 000 dollars par épisode. En réalité, un budget qui est souvent dépassé et qui avoisine les 2 millions de dollars par épisode et la moitié est pris en charge par NBC. Vous sentez que ça va déraper très vite ? Et ben voilà, comme si ça ne suffisait pas, le 17 janvier 1994, un lundi à 4h30 du matin, un tremblement de terre d'une magnitude 6.7, le plus fort jamais enregistré dans une zone urbaine des États-Unis, se produit. Le décor est touché et surtout, les disques durs en plein calcul des images pour les plans d'effets spéciaux sont détruits. Et ensuite, le tournage devra s'arrêter après des répliques sismiques qui feront près de 60 morts dans la région. En panique, au milieu de la première saison, un nouveau producteur arrive. Patrick Ashberg, qui est le créateur de 21 Jump Street. Ah, là, ça va aller, hein ? Eh ben, voilà ce qu'il dit.
Si on veut du scientifique, on n'a qu'à regarder la chaîne Discovery. On s'en fout de savoir si une raie a le goût de poulet ou si un mollusque peut soigner les aveugles. Les gens veulent voir des trucs qui explosent et des filles à gros seins. Chaque saison était stupide. De toute façon, la science-fiction, c'est nul. Même la meilleure. Je trouve que 2001 l'Odyssée de l'espace est pompeux, prétentieux et très ennuyeux.
En fin de saison, Sequest arrive en 83e position dans les audiences. 83e sur 132, 14% de part de marché, la cata absolue. Sauf que si SeaQuest est loin derrière Arabesque et Lewis & Clark, elle mène pour la tranche d'âge 18-49 ans. Et c'est ce point-là, ainsi que la promesse de changement profond dans la série et d'une réduction du budget, qui vont faire que NBC renouvelle la série à la surprise générale. Et même si Warren Littlefield, le directeur de l'antenne, affirme le contraire, on se dit que le fait que Spielberg en soit le producteur est un tout petit peu rentré en ligne de compte, même si Spielberg lui-même regrette ne pas s'être impliqué plus en avant dans la série. Donc il y a une saison 2. Et en saison 2, on proclame enfin le fait que on fait de la science-fiction, non plus une série d'aventures avec un contexte scientifique. Le SeaQuest doit affronter une plante mortelle, le dieu Neptune, ouais, c'est bien entendu, le dieu Neptune, un crocodile préhistorique, bref, ce n'est plus Star Trek, c'est devenu carrément Voyage au fond des mers. Pour des raisons d'économie, le tournage s'est déplacé des studios de Los Angeles à ceux de Floride, près de SeaWorld. Et un des producteurs, David Burke, reste avec l'équipe, alors que Patrick Ashburn, lui, travaille depuis Los Angeles. Tout ça va être très simple. Le SeaQuest a été détruit à la fin de la première saison. Ça permet de le reconstruire en modifiant pas mal de décors pour les rendre beaucoup plus télévisuels. Et la volonté de rendre la série plus sexy auprès d'un jeune public. Donc, on modifie les tenues, on vire une bonne partie du cast, parce que de toute façon, leurs personnages n'ont jamais été réellement approfondis, et puis tant pis pour les acteurs, on ne garde que les plus jeunes. Et surtout, Jonathan Brandis, qui est devenu une star pour les teenagers. On demande à Roy Scheider de se faire pousser la barbe, bon, allez comprendre pourquoi, et on ajoute toute une flopée de jeunes comédiens, dont une télépathe, un amphibien qui possède donc des branchies, interprété par Michael DeLuise, et un dagger qui fait partie d'un groupe de créatures génétiquement modifiées. Et est incarné, lui, par Peter DeLuise, de 21 Jump Street, le frère de Michael. Bon, évidemment, ça va sans dire, Bob Ballard ne fait plus partie de l'équipe. Roy Scheider proclame dans chaque interview que la série est devenue infantile. Le dernier épisode de la saison voit les SeaQuest enlevés, le SeaQuest, est projeté sur une planète étrangère en pleine guerre civile où il s'y fait ni plus ni moins que détruire une nouvelle fois. La saison arrive 57e dans les audiences. Voilà, fin de partie. Eh ben non, même pas. Ah voilà, c'est carrément de l'acharnement. Parce que NBC se trouve dans une situation catastrophique à la rentrée 1995. Et le pilote de leur série, pour début de soirée du mercredi, Rolling Thunder, une sorte de remake de l'agence touristique, est finalement retoqué. Une nouvelle saison de SeaQuest est donc lancée de toute urgence. Le vaisseau réapparaît sur Terre sans explication en 2032. Désireux de rompre son contrat, Roy Scheider quitte la série à condition d'accepter d'apparaître dans 3 épisodes. C'est Michael Ironside qui va prendre le rôle de Olivier Hudson, le capitaine d'un vaisseau, le SeaQuest, en guerre contre une organisation terroriste, l'Alliance de Macronésia. Une nouvelle fois, le style de la série change pour une saga militariste sans grande envergure. La saison 3 se termine à la fin de l'année, après 13 épisodes, en 80e position dans les audiences. Spielberg était si mécontent de la série qu'il a même été question à un moment de retirer le logo d'Amblin du générique de fin. Amblin, sa boîte de production, c'est vous dire. Donc, une erreur en roue libre, terriblement coûteuse. Les Américains ne sont pas les seuls à faire des séries honteuses, des erreurs télévisées. Nous avons aussi notre part. Je n'en ai déjà cité en vous rappelant Riviera, mais je pourrais aussi vous parler de Château-Vallon, le concurrent français de Dallas, de Karateka en cours avec le grand Jean Marais en Émile de Bruce Lee, de l'État de grâce avec Anne Consigny qui échoua à imposer une série politique en France, de Sécurité intérieure, la très vite oubliée création originale de Canal+, qui tentait de créer une sorte de thriller d'action dans la lignée de 24 heures chrono. Et je pourrais aussi vous parler de Marseille. Première production originale française de Netflix en 2015, Marseille. Ouais, je pourrais vous en parler. Ou bien je pourrais laisser son créateur en parler. Je pense que c'est bien plus intéressant, vous ne croyez pas ? Dan Frank est un romancier et auteur absolument formidable. En termes de séries, il a écrit des téléfilms comme Jean Moulin, le Rainbow Warrior, la mini-série Carlos et surtout la première saison de la formidable série Les Hommes de l'Ombre, qui faisait entrer la France de plein pied dans le domaine de la série politique de haute volée. Invité au FIPA en 2016, Dan Frank accepte de me donner une interview et d'évoquer la série qui est annoncée et attendue de tous.
Qu'est-ce qui vous a donc fait dire oui à Marseille ?
D'abord, j'aimais bien le producteur qui m'a proposé, oui. Pascal Breton. J'aime
je connais bien aussi, voilà. C'est un type formidable.
Un type formidable que j'aimais beaucoup. Il y avait un côté Paris là-dessus, une espèce de Paris, comme toujours, quand on vous propose un sujet assez vaste. Mm-hmm. Je ne connaissais pas bien Marseille, donc c'était quelque chose qui m'intéressait. C'était une espèce d'épreuve qui m'intéressait, voilà. Travailler sur les problèmes avec les Américains, j'avoue que je ne savais pas bien, je ne parle pas anglais, je me disais pourquoi ils m'ont choisi moi alors que je ne parle pas anglais.
Bon, vous ne parlez pas anglais ?
Non, je ne parle pas anglais. Ils ont eu bien. 50 projets, mais ils ont choisi un auteur qui ne parlait pas anglais.
Cool.
Ça en dit long sur leur largesse d'esprit quand même.
Hein. Absolument.
Voilà, donc il y avait un pari quoi, dans tout ça, et ce pari m'amusait.
Là, vous avez terminé la première saison, c'est très attendu. Mais c'est très attendu, j'ai tendance à dire, autant que la première saison des Hommes de l'Ombre était attendue, parce que c'était France 2, qu'on n'attendait pas du tout France 2 dans ce genre de série, et que la série a fait, pas simplement un carton d'audience, mais a prouvé que France 2 pouvait faire des séries du niveau Canal+. Pour dire franchement, des séries haut de gamme, très niveau, très recherché, très pointu. Et là, c'est exactement la même chose. On attend Netflix au détour, sur la première production française, qu'est-ce qu'ils vont faire, et donc, la barre est haut. Dans les deux cas, vous vous retrouvez avec des séries qui repoussent les limites, avec un truc qui est attendu parce que...
On verra. Je ne peux pas présager de l'avenir.
Bien sûr.
On verra.
Vous êtes content de toute façon du résultat, je suppose.
Enfin, je ne l'ai pas vu, mais oui, je suis content, bien sûr, bien sûr. J'ai pas vu... Je vous dirai ça quand j'aurai vu tout monter, mais oui, ce que j'ai vu me satisfait.
La communication sur Marseille, c'était... la communication. À House of Cards, à la française. Je pense pas que ça soit ça.
Non, c'est pas ça.
On est bien d'accord.
Je sais pas qui l'a dit, pas moi en tout cas.
Je trouve ça extrêmement réducteur.
Mais, en tout cas, c'est pas ça parce qu'il y a dans House of Cards un cynisme qui est la spécificité de House of Cards et moi je saurais pas écrire comme ça. Donc, je dirais que c'était. Je crois pas que ce soit la même chose.
Et voilà, nous étions en janvier. En mai, Marseille est mise en ligne. Et à la consternation générale, la série accumule les clichés, les vulgarités, montre la société marseillaise sous ses aspects les plus caricaturaux et présente un maire sortant, Robert Tarot, incarné par Gérard Depardieu, qui est trahi par son plus fidèle lieutenant, Luc Abarès, incarné par Benoît Magimel, qui se révèle être son fils caché. Mais plutôt que d'être consterné par cette catastrophe artistique qu'on n'attendait pas, redonnons la parole à Dan Frank. En 2018, il sort chez Grasset un roman remarquable, je vous le conseille. Hein. Il s'appelle Scénario. Il raconte toute l'enquête que mène à Marseille un scénariste, lui, à qui un gros diffuseur international, la WDM, commande une série qui s'appellera Fausse Monnaie. Et le réalisateur qui est choisi par Franck, son alter ego du livre et par son producteur dans le livre, Bonavita, a pour nom Samy Stoge. Et une fois le contrat signé... Je vais plutôt vous lire quelques passages du livre. Alors, il a dit « J'ai pas tout lu, mais presque. Il manque beaucoup de choses. Je crois quand même qu'on va y arriver. » « Il manque quoi ?» lui dis-je. « Il manque du sexe, des flics, de la cam, un début plus musclé, une fin plus claire, des scènes en prison, deux ou trois poursuites en voiture, un entourage plus corrompu autour de Klein, un amant pour Amina, Leïla avec ses élèves, quelques rottweilers dans les cités, des maîtresses nombreuses pour Carousel, le vieux au Maroc devrait être beaucoup plus jeune, le russe n'a pas besoin d'être russe. » Alors je vais un peu plus loin. « Et donc le sexe ? Eh ben, je t'en mettrai un peu plus. » Bon, ajoute deux nanas entre elles, hein, suggérait Stoge. En général, ça plaît. Regarde, la vie d'Adèle, ça fait un carton. Un peu plus loin dans son livre. Le processus de dépossession avait commencé. En général, les metteurs en scène avec lesquels je travaille redoutent cette épreuve autant que moi. Et nous savons gérer ce moment crucial. Il suffit d'un peu de bonne volonté de part et d'autre, d'une compréhension réciproque. Quelques séances de travail nous permettent d'accorder nos violons, chacun comprenant que nous visons un seul but, le film. Je corrige le scénario en fonction des désirs du réalisateur à qui j'ai donné la main. Et il l'apprend solidairement, grâce à quoi nous empruntons ensemble le chemin devenu commun. Apparemment, Stowe était très différent des réalisateurs avec qui j'avais travaillé. Il ne voulait pas me prendre la main, mais il voulait me tordre le bras. Tiens, un autre passage, un peu plus loin. Stowe, donc le réalisateur, trempa ses lèvres dans son martini rondelle et revint à charge. « J'aimerais que tu me donnes le texte quand tu l'auras repris. »« Bien sûr. Il est probable que nous le modifierons sur le plateau. J'espère que vous ne changerez ni l'histoire ni la structure. »« Ah ben ça, tu verras bien. » »« Ta compétence à toi, c'est de tourner, lui dis-je. La mienne, c'est d'écrire. Je ne vais pas venir sur ton plateau pour t'expliquer où tu dois placer ta caméra. Pour le stylo, fais-moi confiance. » Un peu plus loin. Le réalisateur voulait tout faire, tout refaire à sa main, et seulement à la sienne. Je devins le passager clandestin d'une série que j'avais conçue et écrite, dont j'étais par contrat directeur artistique et producteur associé. On m'envoyait en loose day les photos des décors choisis par le réalisateur, à charge pour moi de les approuver ou non, sachant que si c'était non, bah ce serait oui quand même. Ma parole n'était pas plus audible que celle des autres. Un peu plus loin dans le livre, un autre passage. Nous faisions une balade sur le GR20 le long de la côte, marchant depuis le matin sous un cagnard de plomb. Et puis, un coup de fil. Le producteur a attendu la fin de l'explosion pour dire « On ne t'a rien dit pour protéger tes vacances, mais Stowe a engagé un autre scénariste. » Je me suis assis sur le sable. J'étais incapable de prononcer un mot. Il a fait réécrire des parties entières du scénario, notamment celles que tu ne voulais pas modifier. Et enfin, un dernier passage, quand Dan Frank se rend sur le tournage pour un press junket. Lorsqu'il m'a vu, Stowe est venu vers moi, la mine avenante. Il m'a pris par l'épaule et m'a dit « Viens, viens, il faut que je te montre quelque chose ». Nous avons fait quelques pas, loin des caméras. Une nuée de gamins de la cité observait le tournage de loin. « Je voulais te dire un truc. » Stowe a lâché mon épaule. « Je déteste que les scénaristes viennent sur mes plateaux. » Je me suis tourné vers lui. « Je te demande donc de partir. » Et il s'en est allé après avoir envoyé un salut joyeux aux gamins de la cité. Il m'avait tout simplement viré du tournage. Voilà. En saison 2, sans surprise, puisque l'impact médiatique de la série était absolument colossal, Philippe Pujol, Thierry Aguila et Marianne Le Pesnec ont repris l'écriture. Alors une dernière information. Marseille est la seule série au monde à avoir en son générique la mention de « showrunner », un terme qui est plus une habitude de langage, mais qui contractuellement existe sous la forme de « producteur exécutif ». Donc l'unique fois où elle apparaît dans un générique, toute série confondue, c'est dans la première série française de Netflix. Alors je vous parlais en ce début de Previously des points communs entre toutes ces séries « cata ». En premier, c'est une absence totale de ligne directive. Toutes ces séries reposent sur des idées intéressantes, mais qui ne parviennent pas à être correctement exécutées sans un responsable assez fort et impliqué pour imposer un chemin clair et net, ou bien avec trop de responsables qui se phagocytent les uns les autres. Mais sans vouloir voler les répliques à Yoda, je dirais que des points communs...
Il y en a un autre.
Et maintenant, notre nouvelle série Cata, notre série Désastre, notre série honteuse. Vous l'avez vu sur plusieurs chaînes françaises, de Énergie 12 à 13e rue. Ses audiences sont respectables et l'avantage est que l'on sait ce qu'on va y chercher et donc ce que l'on y trouve. De l'action. Ah oui, il y a aussi de l'action. Il y a des coups de feu, il y a des bagarres, il y a des cassages de bras avec des flics sévèrement burnés et des bandits basanés. Non mais je n'invente rien. True Justice en 2011 est une série qui a connu 2 saisons et 26 épisodes. Ou 12 épisodes. Bon, c'est selon qu'ils sont proposés par tranche d'une heure ou par bloc de 2, formant ainsi un téléfilm de 90 minutes. Les héros de la série sont des flics d'une unité d'élite de la police de Seattle, spécialisée dans l'infiltration et plus spécifiquement dans le crime qui rôde dans la communauté de Camp Harmony, où vivent des Indiens, des Asiatiques, des SDF, des repris de justice et des réfugiés de l'ouragan Katrina. Sans rire. En ont joué Juliette Landon pour la saison 1, Marcus, Johnny, Mark et Jessica pour la saison 2, car oui, tout le cast a changé entre deux saisons, sont les héros de la série, mais celui qui est constant, le personnage principal de la série, c'est Elijah Kane qui dirige cette unité. Elijah Kane, c'est Steven Seagal, un acteur aux multiples talents puisqu'il est aussi co-créateur et scénariste de la série dont il est aussi le producteur. On ne présente pas Steven Seagal, vedette de Piège en haute mer, star incontestée de La Castagne et qui, à lui tout seul, suffit à valider la série. Alors, pour nous parler de cette série, j'accueille quelqu'un qui a été obligé de la regarder. C'est un sacerdoce, véritablement, ce métier est un sacerdoce, et qui a vécu grâce à elle un moment absolument inoubliable, Romain Nigita. Romain, bonjour.
Bonjour Alain, écoutez, d'habitude c'est un plaisir que d'intervenir dans ce magnifique podcast qui est Previously, mais là franchement je ne vous remercie pas de me faire revivre ce moment de cauchemar.
Mais attends, c'est la centième, pour la centième tout de même, vous faites partie de la centième de Previously tout de même.
Et donc pour la centième vous faites souffrir vos invités, franchement c'est pas très chic de votre part monsieur Carazé.
Alors j'ai résumé le sujet de True Justice. Mais la série que tu as vue est-elle à la hauteur de sa description, à savoir des flics au regard vide qui castagnent des méchants au regard vide aussi? Est-ce que c'est ça, True Justice?
Bah écoutez, j'ai envie de dire que vraie justice, c'est surtout un vrai nanar.
La punchline est excellente, écoutez, là franchement.
C'est une catastrophe intégrale, d'ailleurs que tout le monde a oublié, je pense, à ce jour, hormis le fait que Steven Seagal en soit la tête d'affiche. Et je dis bien tête d'affiche et pas vedette. C'est un peu l'arnaque de cette série, au même titre que la flopée de films en direct ou vidéo qu'a sorti Steven Seagal depuis maintenant 20 ans. Parce que Steven Seagal, pour ceux qui s'en souviennent, en effet, il a eu quelques succès au début, au milieu des années 90, Piège en haute mer étant son plus gros succès. Ouais. Un peu un succès d'année de Piège de cristal, d'ailleurs même dans le titre français. Mais en fait, cette période de grande gloire a duré que quelques années, et depuis, il enchaîne quand même les films assez bas de gamme, il faut bien l'avouer. Et en fait, ce qu'on retrouve dans cette série, c'est la même formule que dans ces films qui sortent à l'époque en DVD, maintenant en VOD. C'est-à-dire qu'en fait, il intervient très peu dans les films. Les rares fois où il intervient, il est filmé en très gros plan.
Ah ouais?
Pour deux raisons, c'est-à-dire que, bon, il a pris énormément de poids, bon, ça c'est une chose, donc faut pas le montrer de pied en tête, on voit que des gros plans, on voit quand même qu'il a plus qu'un triple menton. Et dans la plupart des autres scènes, bah, tout simplement, c'est pas lui qui joue, c'est des doublures, quand il est de dos, quand il se bat.
Ah, carrément!
Et en fait, la formule de True Justice, bah, c'est, en effet, il y a toute une équipe de flics autour de lui, lui c'est le chef de l'équipe, il donne les ordres aux autres, il a une ou deux scènes de baston, notamment dans le premier épisode, mais après, il intervient quasiment pas. En fait, True Justice, c'est le remake américain de Brigade Navarro. Je sais pas si vous vous souvenez de Brigade Navarro, qui était la série dérivée de Navarro tout court. Navarro et Roger Hanin qui menaient les enquêtes, qui a duré des années sur TF1. Et sur la fin, ce pauvre Roger Hanin étant un peu vieillissant, eh ben, ils ont fait une sorte de spin-off où il se contentait de rester derrière son bureau, de donner des ordres à son équipe de flics. Notamment, il y avait Philippe Nicolic des To Be Free dans cette équipe de flics. Mais voilà, on le voyait au début à la fin, un peu comme Bosley dans Les Drôles de Dames. Mais il n'allait plus sur le terrain. Et ben en fait, True Justice, c'est la même chose avec Steven Seagal, qui intervient en début, fin d'épisode, gros plan, où il marmonne trois mots, éventuellement deux, trois scènes où il est debout, mais de dos, mais c'est pas lui. Et puis après, c'est les fameux flics dont vous avez cité la liste, en plus qui changent entre saison 1 et saison 2, qui vont mener des enquêtes totalement sans intérêt, avec des scènes d'action filmées comme il y a 20 ans. Ça ressemble à du sous au Cœur Texas Ranger, grosso modo.
Ah ouais, d'accord.
Avec en plus, évidemment, bah, comme vous l'avez également dit, chaque fois, les méchants sont pas de chez nous, hein, si vous voyez ce que je veux dire, c'est jamais très subtil.
Ils sont très basanés, comme je l'ai précisé, hein, voilà.
Donc c'est en plus assez puant au niveau idéologique. C'est franchement, c'est bas de gamme. Et en plus, pour parfaire toute cette arnaque montée sur le nom de Steven Seagal, comme vous l'avez très bien écrit, la série a connu deux types de diffusion. Il y a la diffusion série en tant que telle, avec des épisodes au format One Hour. C'est la première diffusion qu'on a connue en France sur 13e rue. Et puis, il y a ce repackage de la série sous forme de téléfilms. Des téléfilms avec chaque fois des sous-titres, comme si c'était des téléfilms indépendants.
Oui, exactement. Parce que moi, je les ai vus en Blu-ray. Enfin, je les ai pas vus. Attention, n'allez pas m'accuser. Je ne les ai pas regardés. Mais j'ai vu que c'était sorti en Blu-ray, des choses comme ça.
Et c'est sous cette forme-là que c'était diffusé sur NRJ12, qui diffusait déjà, de toute façon, les téléfilms. Absolument. Avec Steven Seagal. Et là, en fait, on a l'impression que c'était True Crime, True Justice, je sais plus quels sont les titres des épisodes, mais on a l'impression que chaque téléfilm, c'est la suite, comme si ça avait eu du succès et qu'on en a tourné un deuxième.
Ouais, tout à fait, c'est une espèce de suite de téléfilms à succès et tout. Mais ça a eu du succès, c'est, je veux dire que c'est resté des années sur Énergie 12.
Diffusé en boucle, mais comme un tas de téléfilms, c'est l'équivalent des trucs qu'on trouvait dans les vidéoclubs dans les années 80, qu'on trouvait directement en DVD dans les bacs à soldes dans les années 90. C'est l'équivalent des fonds de gris de la TNT qu'on a connu surtout dans les débuts de la TNT. C'est vrai qu'on a un peu moins ça aujourd'hui. Si on regarde vraiment attentivement les chaînes de la TNT, on a surtout de la télé-réalité française ou américaine, des émissions de décoach comme ça. On a un peu moins ces téléfilms diffusés en boucle. C'était beaucoup plus le cas, en effet, il y a 10 ou 15 ans, quand ces types de chaînes se sont lancées avec des budgets assez bas de gamme.
Donc, True Justice, série scandaleusement oubliée, c'est cela. Bon, venons-en en fait. Le 21 octobre 2011...
Une date à marquer d'une pierre blanche, monsieur Carazé. On s'en souvient tous, ce pays a vécu des horreurs.
Mais là, quand même, à l'invitation de la chaîne 13e rue...
Et j'en profite pour saluer les courageux attachés de presse de la chaîne, hein, Cécile et Ludivine.
Oui, je pense qu'en effet, comme je disais au départ, c'est un sacerdoce. Tu vas rencontrer Steven Seagal, à savoir Saumon Agile.
Ce qui est son surnom d'artiste martial.
Dans une interview qui est quand même à la hauteur du personnage, à savoir une interview déglinguée et carrément inutilisable. Ça, on va le dire franchement.
Alors, c'est même pas déglingué, parce que comme vous le dites très bien, c'est à la hauteur du personnage, c'est-à-dire sans intérêt, totalement cynique. Mais pas déglingué du tout. Pour moi, déglingué, ça pourrait être drôle, ça pourrait être un bon souvenir. Là, ça n'est pas un bon souvenir. Je pense que, du haut de ma grande carrière, n'est-ce pas, c'est la pire interview que j'ai jamais faite. J'ai eu la chance de faire des interviews avec des personnes dont j'attendais pas grand-chose, mais qui se sont avérées passionnantes, parce qu'ils travaillaient sur des séries qui, moi, ne me passionnaient pas, mais en fait, eux se sont avérées...
Oui, ça arrive très souvent, je confirme.
Voilà, je pense notamment aux différents acteurs des séries Stargate. Je suis pas un fan de Stargate, mais les gens qui bossent dessus sont évidemment très passionnés, sont impliqués dans tous les aspects de ces séries-là. Et à l'autre bout du spectre, on a des gens qui n'ont absolument rien à dire, n'ont aucun intérêt pour ce qu'ils font, ne sont pas sympathiques. Et bien, Steven Seagal réunit tous ces points noirs, j'ai envie de dire.
Dans le même genre de personnage, justement, d'acteur, adepte de films d'action, avec justement un curriculum vitae pas terrible, tu as pu quand même faire aussi une interview d'une autre personne, d'un autre acteur, c'est Jean-Claude Van Damme. Comment est-ce que tu comparerais un peu les deux? J'ai l'impression que Jean-Claude Van Damme est plus sincère.
Ah bah, Van Damme et Steven Seagal sont diamétralement opposés à tout point de vue. Déjà, je trouve que la carrière de Jean-Claude Van Damme est beaucoup plus respectable que celle de Steven Seagal, même si dans la carrière de Van Damme, il y a aussi des ratés, il y a aussi des nanars, il y a beaucoup plus de bons films que dans celle de Seagal. Et surtout, humainement, les deux personnes sont totalement opposées. Alors, oui, Van Damme a pu dire beaucoup de maladresses et beaucoup de conneries, notamment il y a quelques années chez Ruquier, où quand il a dit certaines choses qu'il pensait à propos du mariage gay, c'était assez honteux. Au-delà de cet écart qui est bon de rappeler, parce que c'était quand même pas très malin de sa part, c'est un personnage qui est sincère dans tout ce qu'il fait.
Et la série qu'il avait fait, pour laquelle tu l'avais interviewé à l'époque,
Jean-Claude Van Johnson, sur Amazon Prime, dans laquelle il s'auto-parodie.
C'était pas mal.
Et c'est surtout, Van Damme est quelqu'un qui aime profondément ce qu'il fait. Encore une fois, sa maladresse, son côté enfantin, mais il aime le cinéma. Il fait du cinéma parce qu'il aime le cinéma, et quand il dit qu'il aime les films de Belmondo et de Funès, c'est tout à fait sincère. Il aime les films d'action. Contrairement à Steven Seagal, qui est un personnage totalement cynique, qui n'a strictement rien à faire de ce qu'il fait, qui ne fait ça que pour sa gueule et que pour le pognon, ça c'est très clair, et l'interview que j'ai fait avec Seagal n'a fait que le confirmer. Voilà, c'est deux personnes qu'on pourrait penser similaires, mais en fait pas du tout dans leur démarche.
Alors justement, on va voir exactement ce que ça a donné. Je vous propose quelques morceaux choisis, qu'on pourrait appeler malaise télé, si vous voulez, parce que c'est vraiment le malaise, de Steven Seagal sur True Justice. Hein, Steven Seagal qui renifle, qui crache, qui n'en a rien à foutre.
Il est enrhumé. Il renifle parce qu'il était enrhumé.
Oui, mais tout de même, donc, Steven Seagal par Romain Nigita.
Alors, est-ce que c'était important pour vous de faire une série policière et pas un autre genre de série? Pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'être le créateur de cette série?
Je ne sais pas si c'est important. Ça s'est fait comme ça.
Alors racontez-moi, comment est-ce que ça s'est passé avec Joe Alpine, qui a développé la série sur la base de votre concept? Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble?
Il a disparu vers la fin. C'était donc bien pour moi et pour la série.
Alors avant True Justice, est-ce qu'on vous avait déjà proposé d'être la vedette d'une autre série et dans quel genre?
Oui. De quel genre? Je ne me souviens pas. Mon agent peut-être.
Alors en fait, j'ai un peu cherché. Avant True Justice, la seule série télé où vous apparaissez, c'est dans un épisode de la sitcom Roseanne, et vous y jouiez votre propre rôle.
Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est une amie. Elle m'a demandé de faire une apparition de 5 secondes. Alors je suis apparu 5 secondes. J'ai dit un truc un peu mystique et je suis parti.
Alors pourquoi est-ce que finalement, hormis Roseanne, vous n'avez jamais accepté au moins d'être la vedette invitée le temps d'un épisode dans une série policière comme New York District ou quelque chose comme ça?
Je ne suis pas.
Alors pour revenir à True Justice, dans le tout premier épisode, lors de votre première bagarre, vous cassez le bras de votre adversaire. Ça c'est votre coup bien connu, casser des bras, c'est un peu votre marque de fabrique. C'est important pour vous que les fans puissent voir dès le début que c'est bien une série avec la marque Steven Seagal?
Oui, tout le monde voulait que je fasse ça.
Le faire dès le début, pour vous, c'était une manière de gagner la confiance du public?
Je ne sais pas. On a fait comme les gens le veulent. Pour nous, c'était comme un film policier des années 60, 70 ou 80. Je voulais que ce soit basé sur le véritable travail de la police. De vraies enquêtes.
Est-ce qu'il y a un minimum de scènes d'action dans chaque épisode ou est-ce que ça dépend de l'histoire?
Ça tient compte de l'histoire, même si les acheteurs voulaient ça, oui.
Mais vous, en tant que producteur de la série, est-ce que vous dites au reste de l'équipe « Non, là, c'est pas possible ».
Non, là, c'est pas possible. J'essaye de ne pas avoir de conflit avec qui que ce soit. Que tout le monde soit heureux.
Bon, eh ben, tout ça est édifiant, terrifiant, monstrueux, c'est... ça te fait quoi, Romain, de revivre pour la centième de Previously ce moment épique avec son mot agile?
Ah bah là, je me sens sale. Ça m'était un peu sorti de l'esprit.
On a tendance à oublier les mauvais moments.
C'est
hein.
Ça. Enfin, je me souvenais de l'interview, mais je dois avouer que la série en elle-même, j'ai pas vraiment beaucoup repensé depuis, parce que je pense qu'il y a pas grand-chose à repenser là-dessus. En effet, j'avais surtout repensé à l'interview, parce qu'en effet, la fameuse interview de Van Damme, je l'ai faite, je crois, 2-3 ans peut-être après celle de Seagal, et c'était une différence absolument abyssale entre les deux dans l'intérêt de ce qu'ils avaient à raconter et à défendre. Seagal n'a fait aucune autre série de télé depuis, on comprend pourquoi.
Et c'est tant mieux.
Et c'est tant mieux. Je crois qu'à la même époque, il faisait une émission de télé-réalité dans laquelle il était soi-disant shérif adjoint dans une ville en Floride. Enfin, c'était n'importe quoi. Je crois que depuis, sa carrière a encore plus sombré dans les tréfonds des abysses. Je crois que maintenant, il a la nationalité russe, il est copain de Poutine. Enfin voilà, ça vous laisse un peu songeur sur la personnalité de ce monsieur.
True Justice est-elle une série qu'il faut exhumer, qu'il faut revoir, qu'il faut redécouvrir, tout comme les 99 autres séries dont j'ai parlé dans Previously? Est-elle une série qui vaut la... Non, hein, non.
Non,
il faut la laisser là où elle est.
Il faut la laisser là où elle est. J'ai envie de dire, c'est intéressant de savoir qu'elle a existé, que ce genre de choses est possible. Après, voilà, des séries qui sont montées uniquement sur un nom un peu célèbre, ça a toujours existé. Il y en a toujours eu, que ce soit dans les années 60, 90, avec le gros boom de la syndication. C'est typiquement une série qui aurait pu être faite à l'époque de la syndication.
Absolument.
C'est un peu l'équivalent d'un Caraïbes Offshore. Avec Hulk Hogan, sauf qu'au moins Caraïbes Offshore c'était rigolo. Là c'est même pas drôle, c'est juste pathétique. C'est un gâchis de pellicule, sauf que c'est sûrement tourné en numérique. Donc c'est une série qui met presque en colère, tellement on nous prend pour des jambons, j'ai envie de dire.
C'est surtout la base en effet de ce podcast, enfin de ce numéro de preview aussi, de ce centième, c'est les séries qui ont du succès mais qui quelque part se moquent un peu de nous, dont on sent bien que les scénaristes, les acteurs n'ont finalement rien à faire.
Oui, mais je sais que dans les autres titres que vous citez dans cette centième, je crois que vous parlez de Manimal, Manimal, il y a un côté sympathique dans Manimal.
Il y a un côté sympathique.
Il y a les effets spéciaux de Stan Winston qui sont absolument dingues. Il y a ce côté série qui n'a marché nulle part dans le monde sauf en France parce qu'elle est passée en boucle. Il y a le côté un peu souvenir d'enfance pour ceux qui l'ont découvert à l'époque quand ils étaient tout petits comme moi, qui étaient totalement effrayés par les séquences de transformation. J'allais me cacher dans la cuisine et je demandais à ma mère qu'elle me rappelle quand la séquence de transformation était terminée. J'ai des souvenirs un peu comme ça, sympathiques, même si la série est pas bonne du tout. Dans l'absolu, l'acteur principal Simon McCorkindale faisait le job. Voilà,
faisait le job. Oui, c'est vrai.
Il y a des éléments rigolos. C'est produit par Glenn Larson qui a fait plein d'autres trucs. Donc, il y a un facteur un peu sympathie, nostalgie dans Manimal. Dans True Justice, pas du tout. Il y a un côté opportuniste. Il y a un côté arnaque. Et tout ça.
C'est vrai que j'avais un peu oublié quand j'ai choisi de parler de True Justice. De l'arnaque du fait que sa vedette intervient quasiment pas, ou de dos, ou je sais pas. J'ai oublié ça.
Mais c'est l'équivalent de ce que faisait déjà à l'époque Steven Seagal dans les téléfilms. C'est un peu ce que fait aujourd'hui Bruce Willis, hein. Bruce Willis, maintenant, est un adepte des films qui sortent directement en VOD, pour lesquels il se fait payer $1 million pour tourner 3 jours. Et on le met en tête d'affiche. En fait, c'est pas du tout lui le héros. Mais c'était le cas de plein d'acteurs dans les années 60, 70, 80 qui cachetonnaient dans des films tournés à l'étranger, des acteurs américains qui tournaient dans des films tournés en Italie ou en Espagne. Il y en a eu des dizaines comme ça. C'est juste une version moderne de tout ça. Il faut savoir que ça existait. Il faut peut-être en voir un demi-épisode pour se rendre compte de la catastrophe. Et après, mettre ça dans une caisse qu'on jette au milieu de l'océan. Et surtout, petit conseil à mes confrères et consoeurs journalistes, si un jour on propose une interview de Steven Seagal, dites non. Ne perdez pas votre temps.
Merci de ces précieux conseils, Romain. Je rappelle qu'on peut te lire avec des articles beaucoup plus intéressants que
l'interview
de Steven Seagal dans le JDD et dans Man Movies. On va se retrouver, toi et moi, pour la 101e de Previously.
Avec carrément. Un autre souvenir d'interview qui était quand même bien plus agréable et bien plus intéressant.
Absolument. Et donc, en fait, les célébrations de Previously vont continuer encore pendant une semaine. On se retrouvera donc la semaine prochaine avec un sujet. On ne dit rien pour l'instant. On garde encore un peu le mystère. Mais merci encore et rendez-vous donc la semaine prochaine pour un Previously beaucoup plus sérieux ce coup-ci.
À la semaine prochaine.
Ce podcast est disponible sur les plateformes Deezer, Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox et Overcast.